Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24 avril 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestes...
Non.
Bon, ben il n'y a pas du sport ce soir. Aujourd'hui, à 15h du reggae avec Zarma Farah et à 17h FMR.
À 17h en direct...
En direct du festival du jeu du Parc des Expos. Mais dans l'immédiat, voici le jeu des dictionnaires que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
Gérard de l'acteur que c'est pas parce qu'on l'aime pas. On en a un peu marre de voir sa gueule.
Je la refais.
Gérard de l'acteur que c'est pas qu'on ne l'aime pas, mais qu'on en a un peu marre de voir sa gueule partout.
Depardieu hors concours évidemment.
Il est même pas nommé. Il y a Omar et Fred, Danny Boone, Merléan, Cadmerad et Clovis Cornillac. C'est marrant. Hein.
Ouais, y a...
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek. Avec du sport. Ultimatum. Dastrich. Et la participation exceptionnelle de JB.
Et oui, et du sport n'est pas là, et en fait, même le direct aura lieu de beaucoup plus tôt, en direct du Festival du Jeu.
À partir de 15h.
Ah, mince, dommage, ben voilà, donc c'est à partir de 15h au Parc des Expositions, Thomas va en parler justement à partir de là. Je suis vraiment désolé, par contre, une fois de plus, pour la qualité technique déplorable de l'enregistrement de la semaine dernière. Mais on s'est encore fait piéger tout simplement parce que il y a une partie de l'étage de traitement de son, c'est-à-dire ce qu'on appelle les filtres à café de la station qui sont en cours de remixage et tout ça, ce qui fait qu'on avait un son qui était assez saturé sur l'enregistrement. On le regrette sincèrement, mais bon, ça arrive. Oui, puisque que je disais, le festival du jeu de Toulouse.
Oui,
ça me rappelle bien des souvenirs puisque c'était une expérience qu'on avait fait il y a longtemps, il y a 15 ans. Et là, ben, ça a lieu une fois de plus et la radio est officiellement en partenaire, en fait officiellement partie et fait un direct sur place. Et Thomas y est allé hier.
Oui, alors la radio, vous pouvez pas la louper, le stand est à l'entrée. Alors, s'il s'agit
de carrément.
Voilà. à l'entrée,
ah,
vous entrez
sympa,
puis,
sympa.
Et puis vous l'avez sur le côté. Alors, il s'agit de la 9e édition du festival du jeu donc qui se tient du 23, 24, 25 avril. Donc ce week-end au Parc des Expos et donc c'est le hall 8 et 9, sans ceux qui sont un peu excentrés. Alors, vous avez des tournois de jeu, alors bien sûr outre les jeux qui sont en essai.
Particularisme, oui. Faut peut-être indiquer les heures d'ouverture.
Alors les heures c'est...
À partir de midi, hein, d'après ce que j'ai compris.
Je crois, et ensuite jusqu'à 2h du matin. Mmh. Si vous êtes encore dans le parc des expos, dans le hall à 2h du matin, ils vous expulsent pas, vous pouvez jouer jusqu'à pas d'heure, mais ils ferment les barrières, il n'y a plus personne qui peut entrer par contre. Voilà.
Ah sympa, sympa.
Voilà, donc si vous êtes accro de jeu et que vous voulez tout essayer, vous pouvez. Alors le principe ce sont des jeux, alors il n'y a pas de jeux vidéo, c'est tout ce qui est jeux de plateau.
Pen and paper, des petits jeux de familiaux.
Jeux classiques, jeux en bois, jeux en plein air également avec des quilles, etc.
Ça va.
Oui, oui. Donc on a un peu tout, on a pas mal de trucs. Alors on a des tournois, on a une tombola toutes les heures, il y a des lots de jeux à gagner, donc vous pouvez participer en mettant 1€ et puis vous pouvez gagner des plateaux de jeux. On a des quiz, on a des jeux.
J'ai cru comprendre qu'aussi à l'antenne on faisait gagner des jeux.
Ah ça je sais.
Voilà.
On a des jeux sur scène aussi où ils invitent les gens à venir sur scène et à participer en chantant ou des trucs comme ça. On a les auteurs présents. Donc les auteurs, on a Antoine Boza, auteur de Ghost Stories. On a l'auteur de Loup-garou de Tierceleuf, Philippe Despalières.
Oui.
Donc on a divers auteurs français, Bernard Tavitian, Dominique Erard, Frédéric Henry, Guillaume Blossier et plein d'autres. Et on a aussi ce qu'on appelle les Proto Nights, c'est-à-dire ce sont en soirée des jeux qui ne sont pas finis, qui sont en test.
Prototype, en voilà, bêta, public.
Exactement.
Quoi.
Prototype, voilà. Donc c'est là qu'on peut donner les remarques en présence des auteurs qui sont là exprès pour présenter leur jeu. Alors moi perso, j'ai essayé des jeux que je ne connaissais pas. Donc, alors Sushi Bar, j'avais déjà joué. Donc c'est à partir des sushis. Alors il faut avec des baguettes et tout essayer d'avoir le plus de sushis et pas beaucoup d'arêtes, par exemple. Alors c'est à base de dés. Vous avez Rock.
C'est un jeu de plateau avec des dés ou avec des accessoires, parce que tu dis à base de baguettes.
Enfin, alors, on peut expliquer, en fait, c'est là, mince. Ouais, allez, c'est des petits.
Allez, dés. Merde, on a
c'est
le
des,
temps.
C'est des petits dés avec trois sortes d'imagerie sur les faces. Donc, vous avez des baguettes, des sushis et des arêtes. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de sushis par rapport aux arêtes, mais un sushi ne peut être comptabilisé que s'il y a une arête en face. Donc, vous avez des plus 3, des plus 6, des plus 4. Et le truc, c'est on fait les additions, soustractions à la fin.
D'accord. C'est plus orienté. Simpliste, c'est-à-dire orienté autour de la moule, de la chance, quoi.
Oui, alors c'est un jeu aussi de hasard. Vous pouvez, c'est comme le Yams, vous pouvez relancer 3 fois les dés, vous avez 5 dés.
Donc c'est surtout de la chance, quoi.
Voilà, et puis après il faut optimiser les résultats des dés que vous avez. Donc en essayant avec les baguettes, si vous faites 3 baguettes, vous pouvez piquer le pion d'un de vos adversaires. Donc ça c'est marrant.
Ah, ça c'est sympa.
Donc essayez d'avoir le plus de moins 1 possible et le plus de plus 6 possible aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai testé Ruck. Donc ça c'est pas mal. Sushi Bar était sympa aussi. Ruck, alors il faut, ça s'écrit Rock, mais il faut prononcer à la vie. Donc Ruck, c'est un jeu. Alors les pratiques divinatoires, quand tu lances des cailloux sur la table, donc c'est pareil, c'est des galets. Et il faut évidemment alors chacun a un galet unique devant lui, et vous devez trouver l'autre qui fait la paire. Et bien sûr, si l'autre prend la deuxième moitié de votre paire à vous, et bien il prend vos pions qui sont associés, parce qu'il y a plusieurs sortes de couleurs.
Alors c'est un jeu de plateau.
Alors c'est un jeu avec juste des galets, et puis ça se joue sur une table. Ouais.
D'accord. Combien de joueurs à peu près ?
On peut jouer à 4.
Et combien de temps ?
Une partie dure un quart d'heure.
D'accord. Et c'est plutôt pour un public jeune, c'est plus familial.
Voilà, oui, tout, parce que en fait, il faut juste une capacité d'observation et un peu de rapidité. Donc c'est un peu comme le Jungle Speed, en fait.
Ah d'accord.
Faut faire des associations.
Faut faire visuelles. De la place aussi.
C'est ça. c'est assez courant que les galets volent un peu.
On jouera dehors, tiens.
Voilà. Il y avait également une sorte de Trivial Pursuit version rigolote avec des ânes. Donc ça s'appelle Monsieur Je sais tout. Ça c'est plutôt pour les à partir de 8 ans. Donc les questions sont assez faciles. Alors vous devez parcourir un espèce de circuit pour aller dans les fesses de l'âne avant les autres. Et donc c'est Monsieur Je sais tout. Alors que suis-je, qui suis-je, où suis-je? Alors c'est des questions. Il faut répondre le plus rapidement possible. Pas très original, mais l'esprit est sympa. On a Wasabi également. Donc ça c'est à base.
Tu sais qu'on prononce S.
Oui, mais là c'est avec un Z.
Quoi ?
Oui, c'est Wasabi.
Comme mais... dans Luc Besson ?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est à base de cartes et de le but du jeu, c'est de chacun à 4 dés et il faut. C'est
alors combien de joueurs ? Parce que là, il faut que je te donne les bases peut-être quand on.
Alors nous,
quand on chronique un jeu de plateau. Justement.
Alors nous, on y a
combien
joué...
de joueurs ? Combien de temps ? Et le niveau de difficulté ?
Alors c'est un jeu qui sera joué rapidement. Les parties durent un quart d'heure à peu près. Nous, on y a joué à 4, mais je ne saurais pas dire si on peut y jouer à 2 ou à 8, par exemple. C'est édité par Gigamic et donc c'est un jeu avec des dés. Le gagnant est celui qui se sépare de ses dés le plus rapidement possible. Vous avez des cartes qui sont associées aux faces des dés et vous pouvez utiliser des cartes sans des options. Par exemple, vous pouvez changer de sens. Vous pouvez dire que chaque joueur donne ses dés au voisin de droite, ce qui fait que ça peut arranger celui qui a 4 dés et qu'il se retrouve avec un dé en mettant la carte. Donc ça c'est assez sympa aussi. Et après pour les amateurs de Linux. Donc nous avons le jeu Pingouin Deluxe, édité par Edge. Alors là on peut.
Parce que tu m'avais dit pas de jeu vidéo donc.
Oui, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu de plateau.
D'accord.
Bon, ça a rien à voir avec Linux bien sûr, hein, c'est juste avec des pingouins. Et alors le but du jeu, alors là c'est ça se joue de 2 à 8. Plus on est de joueurs et moins les joueurs ont des pingouins. Et en fait c'est sur une banquise. La banquise est faite de petits rectangles en carton avec des nombres de poissons dessus, de 1 à 3. Et le truc c'est de se déplacer d'un morceau de banquise à l'autre pour ramasser des poissons, sachant que quand il y a des morceaux manquants, il se peut qu'il y ait des morceaux entiers de banquise qui flottent à la dérive. bien sûr, s'il y a un pingouin dedans, il peut se gaver à foison. Donc c'est un jeu de, à base de stratégie d'occupation d'espace. Ah,
plus plus stratégie.
Voilà, donc ouais. Ça c'est assez rigolo.
Parce que c'est vrai que tout à l'heure j'avais fait j'ai parlé de jeux simplistes, parce que ça c'est une distinction, c'est une observation que j'ai fait sur la plupart des jeux de plateau que l'on voit. Là où les jeux familiaux où il y a beaucoup de présence, c'est les éditeurs allemands qui font des jeux en général assez luxueux. On pense aux Colons de Catan et à tous ces jeux-là qui sont des pions en bois, qui sont bien faits, etc. Mais la plupart sont des jeux dits simplistes, c'est-à-dire que sont des jeux avec des règles qui se veulent simples, mais où en fait tout se fait sur les jeux de dés, au lieu de réellement de la stratégie, de l'occupation. Oui. Alors en général c'est très bien pour un public familial, pour les enfants et tout ça, mais si c'est effectivement avec des 20 ans, 30 ans, 40 ans qui veulent un peu se remuer les ménages... Oui. C'est pas tip top, etc. Quoi. C'est ça qui est un petit peu dommage. Je crois savoir que... Vas-y, continue.
Et sinon, après, en matière d'autres jeux qui sont plus des classiques, donc, si vous voulez tester, que tout le monde vous en a parlé au boulot ou dans la cour de récré, que vous voulez absolument le tester avant de jouer, donc vous avez le Jungle Speed, les Aventuriers du Rail de Days of Wonder, les Loups-Garous de Tiercelieu dont on parlait tout à l'heure, on a le Pandémie qui est un peu vieux mais qui est quand même toujours à la mode, qui fait un beau buzz puisque c'est un jeu collaboratif, et il y a le fameux toujours Time's Up et évidemment toujours les jeux classiques, les jeux de dames, les échecs, etc. Et on a aussi des jeux à licence. D'après ce que j'ai entendu dire, le Tomb Raider est pas mal en tant que jeu lui-même et pas uniquement en licence.
On parle du jeu de plateau, attention.
Oui, tout à fait. Voilà. La future déclinaison en jeu de plateau de Nullbuck.
Qui a été annoncé depuis un bail, il me semble.
Oui, par donc l'auteur français qui apparemment vend le plus de jeux actuellement. Donc c'est un spécialiste qui m'a dit ça hier. Donc c'est Antoine Boza qui est l'auteur de Ghost Stories. C'est lui qui a mis en place le Nullbuck. Et on a aussi pour les fans de la bande dessinée Oko, le jeu de plateau Oko. Je n'ai pas pu y jouer. Je l'ai vu à côté. Je suis passé. Voilà.
Est-ce qu'il y a du temps d'attente résume-nous parce que tu y es allé hier soir. À peu près vers quelle heure?
Vers entre 19h et 1h du matin. Donc après c'est
C'était un peu la période creuse où les gens étaient partis manger quoi.
Oui voilà, alors après c'est les heures de pointe, je pense qu'il y a toujours moyen.
Je suppose qu'il y a restauration sur place.
Oui, il y a restauration sur place, il y a aussi les restos qui sont aussi à l'extérieur. Alors par contre oui, il y a des jeux qui sont forcément pris d'assaut plus que d'autres. Vous avez plein de tables avec des jeux en essai libre. Vous avez aussi une armada de bénévoles qui sont là pour vous expliquer les règles, parce que vous avez aussi les notices, mais si vous voulez pas vous prendre la tête à lire les notices, les gens, ils sont là pour ça, ils s'éclatent à vous expliquer les règles, ils sont super pédagogues, ils sont 380.
Ouf.
Des t-shirts orange, festival du jeu, vous pouvez pas les louper, et ce sont des jeunes qui sont passionnés de jeu, qui sont là pour le plaisir, et vous pouvez leur demander, ils sont là pour ça. Donc voilà, vous avez donc c'est une initiative assez sympa, il y a le parking, tout est fait pour.
Et moi, je voudrais passer un coup de chapeau à quelqu'un que j'ai connu quand j'avais monté avec des camarades d'une association qui s'appelait Scarabée Pop. C'était il y a longtemps. Un type qui en a fait une boutique à Toulouse. Donc là, c'est de la pub. Hein, je suis désolé. Mais ça s'appelle le passe-temps. C'est-à-dire, si justement vous avez loupé ce moment-là, sachez que dans cette boutique, vous pouvez tester les jeux, ce type de jeu sur place. Il a surtout des jeux familiaux. Je suppose qu'il y a aussi du jeu de rôle et du jeu du wargame à figurines, ce genre.
Oui, il y a aussi
tant que de l'historique, du fantasy.
Oui, alors j'ai pas trop vu de Warhammer. Par contre, vous avez
c'est dommage parce que Warhammer,
Je crois qu'il y est, mais je l'ai pas vu. Il y a aussi des jeux de plateau avec une iconographie très fouillée, avec super jolie et tout. Alors les parties durent 2 heures, donc nous, comme on y était en coup de vent, on n'a pas voulu. Vous avez aussi, tant qu'on parle des figurines, des expositions de figurines dans des vitrines, et des concours de figurines aussi. Les gens arrivent avec leurs figurines qu'ils ont peintes eux-mêmes. Alors le lot, je sais pas, mais c'est organisé par la Team Toulouse, donc qui compte pas mal de spécialistes de peinture de figurines.
Ils sont très très forts, hein, voilà. D'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'on a le site web, on aurait dû le préparer.
Oui. On mettra dans.
C'est quoi le nom? Dis-le là, parce que.
La Team Toulouse, comme ça se prononce. Team comme la team et puis Toulouse. J'ai aussi oublié de noter l'URL du site du festival du jeu. Honte à moi.
Toulousefestivaldujeu.com et je crois, alors je veux pas me planter, mais je crois qu'il me semble qu'on l'a foutu dans nos chroniques.
D'accord.
Donc, sinon, il y est sur le site de la radio www.radio-fmr.net, où là vous avez le lien direct. À noter que c'est entre guillemets, hein, je veux dire, une franchise, puisque ça a lieu à différents endroits. L'entrée est gratuite.
Tout à fait.
Voilà, ça c'est un point qui est important à signaler. Et attendez, parce que je vais essayer d'y aller, parce que je suis sûr que sur le site lui-même, il y a d'autres annonces de festivals, de dates. Non. alors il y a marqué que aujourd'hui, que demain ce sera accès difficile pour cause de football.
Ah oui, mais c'est juste à côté du stadium, c'est stadium, pas
donc on peut pas le manquer. Hein, voilà. Attention, avec plein d'informations sur les associations, sur les boutiques qui sont présentées, sur les éditeurs qui sont présents. C'est à mon avis, c'est justement l'occasion de sortir et de faire, je veux dire, un loisir intelligent et pas rester passif devant un film bien débile. On verra ça tout à l'heure avec Matt Damon, s'il vous plaît. Ça s'appelle La Transition, camarade. C'est le supplément week-end numéro 237, il me semble. Déjà, bravo. On vous l'avait promis la semaine dernière. C'était une interview de l'auteur du Larousse de la bande dessinée, qui est devenu le dictionnaire mondial de la bande dessinée. À mon plus grand regret. Tiens, mon plus grand regret, il y a le lecteur qui s'est arrêté. Voilà. Non, c'est que j'avais retiré le disque. Bah ouais, les joies du direct, hein. Quand on se plante dans les boutons, là-dessus, ça ne pardonne pas. Le Larousse de la bande dessinée est vraiment une institution, parce que c'est l'un des très rares ouvrages qui voit vraiment d'une manière mondiale le 9e art, et en un seul volume. Alors il y a d'autres ouvrages didactiques sur la bande dessinée. Il y a Henri Philippini qui en a fait un en 3 tomes chez Glénat il y a environ 5 ans. Il y a aussi des revues qui avaient tenté l'expérience encyclopédique, excusez-moi, avec le DBD, si je me trompe, et plein d'autres choses. Le collectionneur de bande dessinée aussi, auquel Patrick Gomer a participé, et plein d'autres choses. Alors, il est arrivé le mois dernier et l'occasion était trop belle. J'ai dit à Patrick Gomer, est-ce que ça te dirait que l'on se prenne un café, puisque oui, on se tutoie, parce que oui, il est membre comme moi de l'association des critiques de bande dessinée, ce qui me semble tout à fait logique. Donc, il participe au prix de la critique. Et là, il m'a dit, viens plutôt chez moi. Je serai revenu du Salon du Livre de Paris, puisqu'il sortait d'une interview sur France Inter dans le cadre de l'émission 2000 ans d'histoire. C'est pas rien. Et le lendemain, il partait sur Europe 1. L'émission de France Inter est d'ailleurs disponible sur le site de nos amis de la radio du service public. Et pour le coup, ça valait le coup, je vais dire, de le présenter. Alors Thomas, t'es justement sur la bonne page. On va jouer un petit jeu qui est amusant. Patrick Gomer, pour vous le présenter, histoire de rire, je vais lire sa bio telle qu'elle est présente dans la Wikipédia, puisque justement on aborde le sujet dans l'interview. Patrick Gomer est un écrivain et journaliste spécialiste de la bande dessinée, né en 1957. Après une formation comptable, Patrick Gomer travaille comme libraire généraliste à partir de 77, puis spécialisé à partir de 1983. Même année, il signe ses premiers articles et dossiers. 3 ans plus tard, il organise ses premières expositions et en 89, il abandonne la librairie pour se consacrer à la recherche et à l'écriture, ainsi qu'à l'animation de conférences et formations bande dessinée en France et à l'étranger. Et si c'est bien une chose qu'il a réduit, mais alors fortement à sa portion congrue par rapport au précédent tome, c'est sa propre biographie qu'il écrit en dessous de son avant-propos. Alors pour le coup... Est-ce qu'il y a des différences? On va voir ça. Est-ce que le dictionnaire est plus précis que la Wikipédia? Thomas, je t'en laisse le plaisir, tu l'as sous les yeux.
Oui, alors là, c'est plus concis, on va dire. Ancien libraire, temps futur, auteur, en plus de ce dictionnaire mondial de la BD, de nombreux ouvrages sur la bande dessinée ainsi que de diverses sommes sur des créateurs, des journaux et des éditeurs, publiés notamment chez Dargaud, Le Lombard et Moulinsart, organisateur d'une cinquantaine d'expositions d'Alberto Breccia à David B., Patrick Gomer travaille par ailleurs comme journaliste spécialisé et comme conférencier formateur.
Donc voilà, et c'est lui qui fait ce magnifique ouvrage. Alors j'ai pas mesuré le nombre de pages, j'ai pas mesuré le poids, en plus on a un problème technique, on vous le racontera tout à l'heure. On fera une comparaison face à face. Oui, on peut faire du face à face de Dico à la radio, même si vous n'avez pas pris la redevance couleur. Vous allez voir, on va se démerder. Mais en attendant, eh ben, c'est 30 minutes d'interview. Patrick Gomer a bien voulu nous recevoir, nous, c'est-à-dire vous aussi, chez lui. Vraiment, c'est aussi un passionné de radio et de ce côté-là, et ben, il va un peu vous faire visiter, ben justement son univers, ce qu'il passionne et ce qu'il adore.
Débile.
Mais bon,
tu sais, tu me connais.
D'après toi.
Patrick Gomet, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez toi. Oui, je dis non parce qu'en fait, on n'est pas venu tout seul. Tu as vu, il y a mes auditeurs qui sont venus. Je suis désolé, ils sont que deux ou trois, mais ils vont pas faire de bruit. Hein.
Ils ont l'air gentils. Surtout le gros moustache derrière et la jeune fille blonde. Voilà, non, mais à part ça.
À part ça, ben, tu es l'auteur du Larousse de la bande dessinée. Auteur unique maintenant.
Alors oui, à la fois auteur unique sur la partie alphabétique, hein, noir et blanc, qui va comme toute partie alphabétique de A jusqu'à Z, mais également toute une partie plus géographique qui couvre un petit peu justement tous les principaux zones géographiques de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et les Amériques. Et là, je me suis fait partiellement aider, d'une part par Christian Marmonnier pour la partie États-Unis, belgo-française, puisque on pourra y revenir si tu veux. J'ai partagé la Belgique et la France, alors que dans d'autres éditions précédentes, c'était un seul et même dossier. Et pour la partie Afrique, en fait, j'ai collaboré avec, enfin, on l'a fait vraiment à deux, avec un certain Christophe Cassio-Horry. Je dis bien un certain parce que je n'ai pas encore l'avantage d'Internet et parfois les surprises d'Internet, c'est que je n'ai pas encore rencontré ce monsieur dont j'avais lu les écrits dans une revue qui s'appelait Africulture. Et donc, en lisant ces articles, je me suis dit que ou moi je vais faire un grand dossier sur l'Afrique et je vais ramer, je vais peut-être faire des approximations et ça ne va pas du tout. Ça, c'est mon but, c'est d'essayer de faire quelque chose de plus honnête possible, le plus exact possible. Donc je me suis dit autant qu'à faire. Je suis très bavard, là, je suis désolé.
On s'en fout, tu sais, on a le temps.
Voilà. Et je lui ai demandé de faire un petit peu le canevas au niveau recherche et tout sur la partie africaine. Et puis après, bon, moi, j'ai remis un petit peu mon grain de sel, mais ça a été vraiment coécrit. Donc c'est à la fois, je suis l'auteur sur la couverture, mais j'ai également ces deux collaborateurs sur la partie cahier couleur, et c'est important de le souligner.
Ça, c'est beau. Donc, c'est le Larousse de la bande dessinée, donc qui est l'ouvrage. Une nouvelle édition est sortie cette année, il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Dictionnariste ou encyclopédiste?
Ah, dictionnariste, c'est pas très joli, moi, je dirais, ouais. Encyclopédiste, passeur. Passeur. Moi, je me verrais bien comme un passeur. Réellement, parce que c'est ça, si tu veux, je le tiens véritablement de d'où je viens. Je viens d'une région d'Avodo, parle de mauvaises gens. Hein, c'est donc c'est quasiment cette région-là, sauf que moi c'est encore plus mauvais gens, c'est-à-dire c'est milieu rural, Angevin, plutôt les cathos de gauche, on va dire. Hein. Je viens d'où, en fait, de l'Anjou, l'Anjou profond, d'une région qui s'appelle l'Anjou noir. Alors, pourquoi l'Anjou noir? Ce qui signifierait qu'il y a l'Anjou blanc? Ben oui, en fait, l'Anjou est une petite région bien connue pour son conservatisme, accessoirement quand même par quelques poignées d'auteurs plutôt talentueux. Je pense à Marc-Antoine Mathieu, Étienne Davodeau, Pascal Rabaté, pour ne citer que ces trois-là. Et c'est une région qui effectivement a la particularité d'être partagée par un fleuve, qui est la Loire, le Maine-et-Loire, avec d'un côté les vignobles, le côté très, très touristique. C'est très beau, c'est une magnifique région. J'incite les trois auditeurs à aller visiter cette magnifique région. Et l'Anjou noir où je suis né, où c'est effectivement là... je dirais plus rude, hein, disons ça comme ça. C'est en gros une cuvette où quand il pleut pas, il neige. Il neige peu, mais il pleut beaucoup, et c'est là où j'ai grandi, c'est là où, parce que tout ça, pourquoi j'aborde ça, c'était ce côté passeur. C'est-à-dire, ce côté passeur me vient de mon grand-père, qui était mineur de fond, de mon papa, qui était ouvrier d'usine, et y en a un qui m'a fait aimer l'histoire, c'est mon grand-père. Qui avait quelques petits livres dans la collection J'ai lu, l'aventure un peu historique, parce que ça coûtait pas cher, on était vraiment issus d'un milieu modeste, et puis très modeste, et puis papa, lui, m'a fait aimer l'agriculture dans tous les sens du terme. On est loin de la BD, mais c'est pour dire que cette passion du partage, elle vient de là.
Alors, on parlait tout à l'heure... Oui, non, mais c'est amusant, parce qu'entre-temps, il y a eu une interruption. Hein, si vous le savez pas, c'est que j'ai bien fait mon boulot de montage. Mais ce qui est... Donc, tu es auteur du Larousse de la bande dessinée, c'est pour ça que je posais la question, dictionnariste ou encyclopédiste. Mais surtout, il y a eu une première édition en 88, 89, je sais plus. Ensuite, il y en a eu une en 93, une en 98, une en 2004. Et celle de 2010, donc, qui vient d'arriver. Ça fait pratiquement... tous les 6 ans, nous dico. Alors, est-ce que c'est devenu de facto un rituel?
C'est pas tout à fait comme ça. Y a une première édition, en fait, elle est un peu plus récente, si on peut dire. La première édition, en fait, est sortie en 94, mais c'est vrai, parce qu'on a eu l'occasion de l'aborder. Moi, j'ai commencé à travailler en 88-89. À l'époque, l'ouvrage était co-signé avec Claude Moliterni. À savoir que Claude est hélas maintenant décédé, quoi. Hein. Mais c'était quelqu'un qui avait un entre-genre, qui avait un dynamisme incomparable, ça c'est clair, qui savait très bien négocier les contrats, qui avait énormément de contacts, donc c'est grâce à lui que l'ouvrage a pu exister. Moi j'étais même pas dans l'histoire, hein, au départ. Et à un moment, il faisait appel à des collaborateurs, il fait l'appel à moi, quoi. Hein. Et pour diverses raisons qui sont peut-être trop longues à développer, on va simplement dire que je me suis retrouvé à écrire l'ensemble du texte. Alors l'ouvrage est évidemment co-signé, parce que j'explique que sans lui, moi j'avais aucun contact chez Larousse, j'étais rien. Enfin, j'avais écrit quelques dizaines d'articles, collaboré à quelques ouvrages collectifs, point barre. Et donc j'ai commencé ce livre en me disant, de manière peut-être un peu prétentieuse, mais c'est pas trop le genre d'un maison, pourtant, c'est du genre, il y a eu tellement d'écrits approximatifs, moi je vais essayer de faire quelque chose de plus précis possible. Exhaustif peut-être pas, parce qu'on arrive forcément à un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Et puis, l'ouvrage n'a pas si mal marché que ça, on en a refait une nouvelle édition, toujours avec la collaboration de Claude en 1998, puis après, Claude a décidé de faire son ouvrage, à part. Moi j'ai décidé d'aller sur notre chemin et continuer effectivement cette belle aventure. Pour répondre à ta question, est-ce un rituel? Ben, c'est en fait surtout la possibilité de rentabiliser un ouvrage qui est quand même relativement lourd, enfin, déjà en termes de réalisation, en termes économiques aussi, hein, faut y penser quand même. C'est tous les 5 ou 6 ans, compte tenu qu'à l'heure actuelle on a quand même 4500 volumes par an, dont 3500 nouveautés, faut faire le tri,
sur l'ensemble du secteur de la bande dessinée. Nota bene.
Sur l'ensemble de la bande dessinée, que ça soit quand on dit effectivement le secteur, enfin tu fais bien de le souligner, c'est à la fois les albums de BD, c'est les ouvrages illustrés faits par des auteurs de BD, c'est quelques livres d'études, mais enfin globalement, c'est quand même, si on calcule rapidement, 10 nouveautés par jour.
Et encore, on pense pas aux libraires, ça leur fait 20 livres à lire par jour ouvert. Et comme d'habitude, quand on l'ouvre, il n'y a aucun éditeur qui n'a de notice.
Très peu. Très très peu. En fait, il y a, je dirais, une demi-douzaine d'éditeurs, mais il y a une raison. C'est-à-dire que les auteurs, enfin les éditeurs qui ont eu le droit à une notice, c'est Georges Dargaud. C'est donc Georges Dargaud, fondateur des éditions homonymes. C'est Robert-Louis Casterman, donc pas le fondateur, puisque la maison Casterman a été créée en 1789. Voilà, en Belgique, je précise, il faisait pas la révolution à l'époque. Mais quand même, je dirais, l'homme qui a compté à la fois dans l'avènement de Tintin, puis après, y compris même, ce qui était sans doute peut-être pas sa tasse de thé, une certaine bande dessinée adulte, hein, notamment le lancement d'À suivre en 1978. C'est également Paul Vinclair, le fondateur de l'agence Opéra Mundi. En gros, on va dire des grands anciens. Donc les grands anciens, ils sont là, hélas tous décédés. Alors j'ai décidé de pas faire mauvais œil et de faire, j'ai pas fait de notice sur les éditeurs encore vivants.
Claude de Saint-Vincent et Guy Delcourt, on remercie beaucoup dans ce cas-là. Mais le fait que Larousse n'édite pas, pardon, n'édite plus de bande dessinée, est-ce que c'est pas justement un gage de neutralité ?
Ah, c'est évident. Ça, c'est évident. C'est clair. Même si ce qu'ils ont fait comme bande dessinée, c'était avant tout à dominante presque pédagogique. Hein. Enfin, c'était l'histoire de France en bande dessinée, le western en bande dessinée, l'histoire du monde en bande dessinée, etc. D'ailleurs, avec des auteurs plutôt talentueux, hein, que ce soit Raymond Poivet, Milo Manara, bien d'autres et tout. Mais c'est vrai que c'est pas un labellisé éditeur de BD. C'est clair que si je publiais le même ouvrage chez Dargaud, chez Delcourt, chez Dupuis et tout, on pourrait m'accuser, ce qui serait malhonnête parce que ça serait effectivement méconnaître mon travail, parce que j'essaie juste, moi j'ai toujours dans ma vie essayé d'être un homme libre, libre dans mes choix, libre dans ma vie, respectueux aussi, hein, mais donc je veux effectivement pouvoir traiter de toutes les bandes dessinées, c'est-à-dire à la fois les grands classiques, également donc les bandes dessinées mainstream, j'aime pas trop le terme, mais voilà, donc les séries un peu voilà, pouvoir parler de L'Enfeuse de Troyes, du dernier album paru à l'association, d'une bande dessinée pourquoi pas slovène, là j'ai fait des grands chapitres sur la bande dessinée chinoise, le manga qui est évidemment essentiel, je veux pouvoir parler de tout avec un maximum de liberté. Je pense que je pourrais peut-être le faire différemment. Enfin, en tout cas, je pourrais t'accuser d'impartialité si je publiais le même ouvrage chez un éditeur de bande dessinée précis.
Ça, c'est évident. Par rapport aux précédentes éditions, entre celles de 1998 à 2004, il y a eu l'arrivée de, du manga, principalement le Japon, qui était enfin implémenté en force grâce au après le travail des défricheurs de Glénat et de Tonkam et de d'autres avant. On va partir sans parler du cri qui tue et tout, sinon tu vas vendre des bouquins en moins, ils auront qu'à se reporter. Depuis 2004, il y a eu la Chine en France, entre autres grâce à Chiopan, le travail de Patrick Abri. Et maintenant, pour la prochaine édition, allez, disons 2016, ce sera quoi ? L'édition numérique ?
Alors, il y aura plusieurs choses. Il y a, tu as parlé du manga, il y a également l'explosion de la bande dessinée indépendante, et il y a le troisième grand volet qui est la mondialisation. Je vais revenir sur le numérique. Mais en gros, c'est les trois grandes j'irais, nouveauté de ces 20 dernières années. Hein, donc le, c'est vrai que le manga, il y a eu quelques essais, mais maintenant c'est devenu, sans mauvais jeu de mots, ça a été un tsunami. Hein. On est passé quand même de 15... moi, quand j'ai fait la première édition, quand j'ai publié le Dictionnaire mondial de la bande dessinée en 1993, donc la première édition, je me souviens avoir recensé 15 titres de manga. À l'heure actuelle, il y en a 1500, donc 100 fois plus. Hein. Voilà, ça donne une petite idée. Les labels indépendants, on aurait pu évidemment évoquer Futuropolis, hein, mais le début de l'association, c'est 1990. Hein, donc voilà, c'était vraiment le début. Et maintenant, on pourra citer 20 ou 30 éditeurs indépendants, de Feu le Beuleu à Ça et Là, Six Pieds Sous Terre, etc. D'ailleurs, voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, ça a été quand même une des grandes libertés. On parlait de liberté tout à l'heure, c'est vrai que c'est important. Et puis le côté mondialisation, on s'aperçoit que maintenant, grâce au numérique, donc ça permet de faire la jonction, eh ben, il y a des auteurs, je sais pas, quelqu'un comme Carlos Risso, qui est argentin, qui va pouvoir travailler sur le marché américain, voire le marché européen, sur l'Espagne ou la France, grâce à Internet, tout simplement. Donc, est-ce que la prochaine... De toute façon, le numérique est là, déjà, c'est même pas une révolution, enfin, c'est une révolution qui est en train de s'amorcer, mais on peut pas passer à côté. Moi, je sais qu'en 2003, quand j'ai découvert la bande dessinée coréenne à Angoulême, tu y étais, toi aussi.
Mais ils étaient en force aussi.
Ils étaient en force, et j'ai découvert les premiers strips sur téléphone portable.
Quoi ? À noter que les téléphones, quand même, c'était pas les petits téléphones qu'on avait à l'époque, c'était des grands écrans qualité VGA, c'était lumineux, et... Ah oui, à ce stade, oui, il y avait confort de lecture.
Et oui, et donc c'est clair que là, de toute façon, je ne pense pas, de toute façon, que le papier va disparaître. En tout cas, pas tout de suite, et pas cette génération. Hein. Même pas la génération de ma fille, je pense pas. Hein. Ça sera le papier va être toujours là, au même titre que je dirais que le cinéma n'a pas tué le théâtre. Simplement, il est devenu un côté presque un peu classique et tout. Donc, je pense que 2016, on verra si loin. Si...
Alors attention, on rappelle, hein, nos amis auditeurs, on est bien à Paris, c'est pour ça qu'ils parlent que le théâtre, sa vie, c'est vrai, voilà.
Voilà. Non mais tout ça pour dire que c'est clair que ce qui est passionnant, c'est de pouvoir, je dirais, essayer de voir quels sont les auteurs qui vont faire un petit peu leur petit bonhomme de chemin. Je sais que parmi les derniers auteurs que j'ai pu mettre dans le Geeko, bah, y a quelqu'un comme Bastien Vives, par exemple. C'est un jeune auteur qui est né en 1984. Donc imagine la première édition, 94, il avait 10 ans quand l'ouvrage est sorti. C'est là qu'on va prendre le poids des ans.
Oui, là c'est clair. Wikipédia, tu le vois toi comme étant de la concurrence, une bonne introduction, ou finalement la preuve que, heureusement qu'il y a le dico qui sort chez Larousse et écrit par monsieur Patrick Gomer.
Un peu de tout ça, parce que Wikipédia, c'est parfois très intéressant, notamment sur, je dirais, les notices consacrées aux auteurs américains et auteurs japonais sont relativement bien faites. Le problème, c'est que je connais certains journalistes qui ont interdiction absolue d'utiliser Wikipédia, parce que Wikipédia, n'importe qui peut intervenir dessus, et y compris la personne qui connaît absolument rien ou qui veut faire une bonne blague, genre Poisson d'avril.
Moi, je sais, j'ai rédigé ma notice. Donc, non, je déconne.
Bref, Wikipédia, c'est à la fois une source supplémentaire de voilà. Donc, mais elle se substitue en rien à mon dico. Enfin, je veux dire, je le vois pas comme du tout comme une concurrence. En ce sens, en plus, Wikipédia, on peut picorer quelques articles, mais il n'y a pas, j'irais un côté un petit peu dimension internationale, tout d'un bloc. Là, on a un choix, mon choix, donc avec sans doute on y trouvera à redire, hein. Je veux dire, il y a un côté forcément subjectif, hein, même si quelque part je suis quand même objectif au maximum, en ce sens il y a des auteurs, je sais qu'ils doivent y être parce qu'ils sont incontournables, et puis par contre j'aime bien faire découvrir le côté pasteur toujours, hein, faire découvrir de nouveaux horizons, parce que ce qui m'intéressait, j'ai mis quand même deux ans à négocier, rien que sur cette négociation auprès de mon éditeur Larousse, pour pouvoir y mettre par exemple le chapitre africain. C'était, personne n'avait quasiment écrit dessus, ou alors des petites bribes, et là c'était quand même c'est un continent entier, donc il y avait des choses à découvrir, et ça c'est le plaisir, c'est vraiment le plaisir.
C'est clair, ça fera plaisir à Barry Baruti qui se bat, qui fait aussi bien la BD franco-belge qu'il se bat pour libérer la BD au Congo. Et une édition numérique justement du Larousse en bande dessinée, est-ce que tu penses que ça te libérerait sur certaines contraintes, que cela te permettrait justement d'être d'ouvrir beaucoup plus?
La question se pose. De toute façon, elle se pose pas encore, hein, puisque là vient de sortir l'édition de papier que je souhaite pour mon éditeur et moi-même. Longue vie. Reste que la question va se poser à un moment ou à un autre. Est-ce que la version papier est encore, aura encore dans une dizaine d'années son utilité, j'espère, hein, mais je pense qu'elle ne sera pas seule. Donc ça permettra effectivement peut-être d'ouvrir à plus de pages, mais moi je ne cherche pas forcément l'exhaustivité, hein. Là je crois qu'on a pratiquement atteint les limites, on est à peu près à 1000 pages, en sachant que chacune des pour ceux qui s'intéressent un petit peu au nombre de signes journalistiques, on a à peu près l'équivalent sur chaque page de 7 à 8 voire 10 pages de magazine, voilà. Donc c'est c'est à la fois un corps un peu plus petit, puis on joue beaucoup. Ça, ils savent faire des dictionnaires, hein, chez Larousse. Donc là, on est arrivé. Oui, heureusement, c'est un peu leur marque de fabrique. Mais c'est évident que c'est quelque part là où on est quasiment en surchauffe. Hein, c'est clair. Moi, pour la petite histoire. Quand j'ai négocié avec Larousse, ils m'ont dit qu'il ne faut pas que la nouvelle édition dépasse, pour des raisons budgétaires, 300 000 signes. J'ai dit, à 300 000 signes, je ne peux rien faire. Pour vous donner une petite idée, ça je parle aux...
Moi, j'ai fait la conversion, mais pas eux encore.
Là, je me suis pas mis à te vouvoyer d'un seul coup, mais c'est donc, cher auditeur. une page tapée machine, c'est à peu près 1500 à 2500 signes, à peu près. Donc, on m'a dit, t'as le droit à 300 000 signes pour l'actualisation. J'ai dit non. Ils m'ont dit, on peut aller jusqu'à 500 000. J'ai dit oui, et j'en ai rendu 800 000. En disant, si, ça rentre.
En même temps, aussi, il y a pas mal de notices qui avaient changé, c'est normal. Est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui est la marque de référence à ce stade? Larousse ou Patrick Gomer?
Ça paraîtrait prétentieux que je dise Gomer. Disons, c'est simplement ce livre-là, c'est mon livre et je le porterai jusqu'au bout. En sachant que j'ai dit que j'étais un passeur, j'espère un moment ou un autre que je vais pouvoir passer dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire pas passer de vie à trépas, je suis pas pressé, hein, je me le souhaite pas, je le souhaite pas pour mes proches, mais il reste que j'ai dit qu'au départ, là pour cette édition, j'avais notamment fait appel pour la partie africaine à Christophe Cassiori et donc à Christian Marmonnier pour quelques pages du cahier couleur. Dans les prochaines éditions, j'aimerais effectivement élargir. Alors, est-ce que je deviendrai du coup directeur éditorial de cet ouvrage? J'aime bien tout contrôler, c'est à la fois une qualité et un défaut. Je sais que le défaut, c'est, au moins je sais que s'il y a une bêtise, on pourra me la reprocher. Donc ça, c'est plutôt une qualité, réellement. Mais le défaut, c'est vrai que c'est parfois du mal à déléguer. Ça, c'est, voilà. Mais c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, un moment ou un autre, je dis, c'est mon livre. Voilà, c'est mon livre. Donc, si Larousse l'avait pas fait, je l'aurais publié ailleurs. Bon, le fait que ça soit Larousse, il y a un côté un peu légitimité, sérieux, je l'aurais fait ailleurs. Et comme tu l'as signalé, peut-être qu'il aurait pas eu cette notoriété. Hein. Donc, je crois que c'est un peu gagnant-gagnant. C'est pas trop le terme.
C'est du papier, c'est imprimé. Je vais pas dire que c'est une collection de bois morts, mais pas loin. Mais est-ce que des fois, une fois, puisque tu parlais justement de, on peut te faire les reproches et tout ça, est-ce que des fois tu as des regrets sur tes articles ?
J'ai toujours des regrets. Je veux dire, franchement, si tu veux, entre chaque édition, on n'imagine même pas les milliers d'heures que je travaille pour encore et encore et encore améliorer. Donc là, je dirais que quand je rends, là, ça paraît immodeste comme ça, mais quand je rends l'article à mon éditeur, il est pour moi, il peut pas être mieux. Voilà. Et je dirais, dès le lendemain, je commence à avoir des regrets. Bon, mais ça, c'est effectivement, c'est une manière de fonctionner. Hein. Mais réellement, j'aimerais me dire, bah, j'aurais aimé faire 10 auteurs de plus, 20 auteurs de plus. Mais arrive un moment où, non, finalement, c'est un instant T. Tu finis le livre, point barre, et puis l'éditeur te dit, bah, écoute, il sort là. Alors, la mort de Jacques Martin, bah, elle est gentille, mais le livre est bouclé. Tu la mettras pas, tu la mettras pour une prochaine édition.
D'accord, et ben on vérifiera sur pièce. Est-ce que du coup, parce que c'est vrai que la bande dessinée est aussi rentrée dans le Larousse annuel, l'usuel des écoliers, et qu'on devrait trouver chez toutes les bonnes ménagères, je dirais. Est-ce que du coup, on t'a dit, il faudrait écrire pour le Dico généraliste, le Larousse?
J'ai déjà fait des articles, non.
Voilà, c'était sans doute.
Voilà, mais voilà, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est vrai que ça n'a pas, ça n'a aucune comparaison. Hein. C'est-à-dire que Larousse te dit, t'as 150 signes ou 200 signes pour faire, les 5-6 auteurs les plus importants, ou même les 100 auteurs importants. Là, on est quand même à plusieurs milliers d'auteurs et même plusieurs dizaines de milliers d'auteurs si on compte les parties cahiers couleur, hein, avec les entrées transversales. D'où l'importance d'ailleurs d'un index qui est très important. Quoi, hein. Voilà.
Est-ce que techniquement, en dehors du dictionnaire, je suppose qu'il y a d'autres dictionnaires internationaux, il y a une amicale des encyclopédistes, il y a des fois où on se dit... Ah punaise, lui, il a fait des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire.
Alors, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a vraiment pas d'équivalent. Il y a dans les années 70, il y avait un ouvrage qui s'appelait The World Encyclopedia of Comics de Maurice Horn, que je salue via les ondes si jamais il passe du côté de Toulouse pendant que voilà, je lui donnerai le. Mais bref, toujours est-il qu'effectivement, il a fait. C'est un des pionniers. Et avant Mondico, il y en a eu d'autres qui ont fait. À l'heure actuelle, il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a vraiment pas d'équivalent. Par contre, il y a des ouvrages d'études qui continuent à apparaître sur telle et telle thématique. On dit, tiens, ça c'est pas mal. Quand je parlais, par exemple, ou même une thématique comme la bande dessinée africaine. Je parlais de la bande dessinée africaine en disant, j'ai découvert des articles parus dans Africulture. C'est ce qui m'a donné envie. Je me disais, tiens, il y a des choses à piocher. Donc ça, c'est clair que c'est un élément important. Il y a aussi le fait que faut pas oublier les forums, l'importance des forums. Et à l'heure actuelle, il y a peut-être pas une amicale des encyclopédistes, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que il y a notamment une plateforme qui s'appelle une Platinum Age Comics, qui est axée essentiellement sur l'âge victorien, donc c'est plutôt la bande dessinée, je dirais antérieure, steampunk, c'est en tout cas l'âge de la vapeur, c'est vraiment plus c'est ça, c'est, si on peut dire, le punk en moins, mais le steam, voilà. Donc tu as vraiment, non mais voilà, c'est top form, mais après et avant, etc. Et c'est donc c'est vrai que on a parlé de Wikipédia, mais il faut surtout dire Internet. Internet permet une vérification et un échange de données avec pièces à l'appui. Hein. On scanne une image à l'autre bout de la planète, on l'envoie, on sait que, bon, sauf si c'est un plaisantin qui évidemment essaye de vous faire une farce, mais globalement, si on a affaire, je sais pas, à un chercheur comme Robert Birbaum, que peu de gens connaissent, mais qui est quand même quelqu'un qui a découvert au seuil de l'année 2000 que Topfer avait été publié aux États-Unis dès 1842. Bon, quand on sait que jusqu'aux années 70-80, on faisait remonter la bande dessinée américaine The Yellow Kid 1895-1896, ben là, on a d'un seul coup découvert que 40 ans plus tôt, ou qu'un demi-siècle plus tôt, il y avait effectivement Topfer. Donc inventeur dans la limite des recherches actuelles, hein. C'est-à-dire que rien ne nous dit que peut-être dans 10 ans on va découvrir d'autres précurseurs. Moi je sais que récemment, je n'ai hélas pas pu le mettre dans mon dictionnaire, j'ai découvert une bande dessinée faite par un jeune homme plein d'allant qui a connu une petite gloire par la suite, qui s'appelle Alfred de Musset.
Je savais qu'il dessinait dans ses partitions, mais je savais pas qu'il avait fait à part. Ah.
Voilà, il a fait. Je te le montrerai. À l'antenne, ça passe mal, mais je te montrerai sur pièce.
Quelle horreur, quelle horreur. Je suis désolé, on va couper là parce que sinon ça va devenir limite tellement échangiste que ça en deviendrait presque sexuel. Patrick Gomer, merci de nous avoir reçus chez toi. Et donc le Larousse de la bande dessinée en vente pendant un certain temps, et la prochaine édition, à mon avis, d'ici là, on aura eu le plaisir de vraiment la lire.
Voilà, et puis je suis ouvert à toute critique, à tout échange, donc vraiment on peut communiquer via cette magnifique radio. Voilà. Non, mais réellement, je plaisante à peine en disant ça, c'est-à-dire que je suis toujours à l'écoute d'une critique qui peut être constructive et qui peut apporter quelque chose, parce que c'est important de toujours et encore toujours s'améliorer.
Merci Patrick. Maintenant on va revêtir nos cagoules blanches et allumer la flamme de la CBD, et on va voir qui c'est qu'on va flamber prochainement dans nos articles respectifs. Merci beaucoup.
Voilà, et puis si vous voulez faire faire passer un message à Patrick Gomer, l'auteur du Larousse de la bande dessinée, dont la nouvelle édition, c'est le dictionnaire mondial de la bande dessinée, hein, est sorti il y a un mois, et ben n'hésitez pas, vous allez sur le site supplementweekend.fr et vous avez une rubrique nous écrire. Alors vous précisez bien que c'est pour Patrick Gomer, et on fera suivre, il n'y a aucun problème, ça nous fera justement plaisir lui transmettre ce genre de retour, et on est justement très demandeur.
Donc on dit quoi, Gomer ou Gomet?
Alors Gomer, après ce que j'ai compris, c'est vrai que je me suis planté en début d'interview, c'était pas évident. Bon, ok, hein, ça m'arrive. Ceci dit, alors c'est dommage parce que j'avais passé à Thomas l'édition 98.
Ça arrive. J'ai oublié mon sonar, elle est planquée quelque part, je l'ai pas trouvé.
En plus exactement, tu t'es trompé, t'as ramené le BDM. Eh c'est oui. Pas exactement la même chose.
C'est un peu concurrent, c'est ça ?
Non, c'est un peu comme si on comparait le dictionnaire international de l'automobile avec l'Argus.
Ah.
Ah oui, c'est pas exactement ça, quoi. Bon, mais ça arrive. Mais pour le coup, on les a côte à côte. On va les photographier, vous les montrer tout à l'heure sur justement les comparaisons. Et pour cela, on va jouer un jeu qui s'appelle le jeu des dictionnaires.
Ouais, le jeu des dictionnaires.
Vous connaissez peut-être si vous connaissez justement les radios de service public francophone, hein, il n'y a pas que Radio France, heureusement. On a pris donc, on avait le 94 Revue 98 qui s'appelle le Dictionnaire Mondial de la Bande Dessinée. Et là, on fait un side by side entre les deux dictionnaires. Plaisure. On voulait les comparer. Voilà. Alors, il fallait rester scientifique et établir une métrique précise sur la qualité grandissante du Larousse de la bande dessinée. Donc on va faire une bataille des dictionnaires.
Ouais. Player One.
Le Larousse de la BD, édité en 2004, versus le Dictionnaire mondial de la BD, édition 2010. Mais les deux, c'est la même chose et c'est le...
D'accord, 6 ans de
différence. C'est le même auteur, mais il y a 6 ans de différence. Alors d'un côté, l'édition 2004, la couverture est de couleur jaune. De l'autre, la couverture est de couleur rouge. La maquette de la couverture.
Alors, on va dire qu'il y a plus de cohérence de loin dans la version jaune.
Ça muscle les bras, hein, de se les passer.
Oui, la version rouge est plus foutraque, on va dire, avec des personnages dans tous les sens. Par contre, au niveau de la qualité des rendus du visuel, la rouge s'en sort beaucoup mieux parce que la version jaune, il y a quand même des personnages comme le Lampfust qui sont légèrement flous ou ils ont fait une iconographie à partir d'images qui étaient très petites à la base.
C'est du scan, du rescan. C'est un petit peu dommage. Deux points communs entre les deux couvertures.
Il y a marqué BD en énorme.
Non, un personnage.
Alors, dans les personnages, on a Titeuf qui revient à chaque fois. Et on a... Est-ce qu'on a Will Lampfust? Et Will Lampfust revient. Et Corto Maltese a été supprimé. voilà.
D'accord. Et très mis en avant, d'ailleurs, Benjamin. Étonnamment,
oui. Oui, Benjamin, effectivement.
Type de couverture. Alors, les deux sont rigides.
C'est marrant parce que derrière, il y a, dans l'édition de 2004, il y a la fusée de Tintin, et dans l'émission de 2010, c'est Spider-Man.
Peut-être parce que les droits de Marvel coûtent beaucoup moins cher que ceux de la Fondation Moulin-Sarr, qui sait. Donc les deux sont des cartonnés cousus, hein, c'est du solide, je sais, il y en a un qui m'a échappé dans la rue, le sac s'est ouvert sous le poids. Néanmoins, l'édition 2004 avait une jaquette souple, une surjaquette, et la 98 aussi, et elle n'y est plus dans la 2010, ça tombe bien, parce que chaque année, quand on part à Angoulême et qu'on part avec un dédico, on est obligé de l'enlever.
Ah oui, donc
c'est voilà, et c'est vrai que c'est difficilement enfin c'est sympa, mais bon, c'était pas génial. La bio de Patrick Gomer donc était dans le rabat de la surjaquette, et là elle est en dessous de l'avant-propos. Hauteur 26,7 cm pour tous les deux, largeur 19,4 cm tous les deux. Je suis sûr que c'est les dimensions du Larousse canonique, hein, le Larousse annuel, le dictionnaire généraliste. Épaisseur 4,8 cm pour l'édition 2004 et 6,2 cm pour l'édition 2010. Donc quand il a dit qu'il est allé deux fois plus en nombre de signes, effectivement on peut bien le croire.
Ça a tassé.
Ça a tassé. Alors est-ce que ça a tassé dans les colonnes? Eh ben, figurez-vous qu'on a mesuré le nombre de pages, précisément le nombre de pages noires et blancs. 888 pages noires et blancs pour l'édition 2004, 954 pages noires et blancs pour l'édition 2010. La hauteur, le nombre de pages du cahier central couleur, on est passé de 80 à 96 pages. Alors le cahier couleur central reprend pays par pays, hein, c'est une thématique.
Et où
il faut que je sois prêt. Oups, je me suis planté. J'ai lancé la séquence suivante, voilà, ça m'apprendra. La hauteur des caractères, on est allé jusque là, on a voulu voir s'il y avait un tassement du nombre de caractères, et ben oui, puisqu'on est passé d'une police de hauteur 3,8 mm à 3,5 mm. Ah. Là-dessus, on a pris le pied à coulisses. Hein. Le prix de l'édition actuelle est de 45€ et le précédent, je ne l'ai pas. Désolé. Alors maintenant, attention, Thomas, je te demande toute ton attention.
Oui. Oui.
On va faire la mesure d'exactitude des deux dictionnaires. Donc tu vas prendre les deux et tu vas me les ouvrir à la page concernant Hergé et tu vas me dire si Hergé, dans les deux cas, est bien mort.
Eh bien, oui. Il est bien mort dans les deux cas.
Quelle date et quel lieu
Parce qu'on avait vérifié tout à l'heure.
Mais punaise, la truc à sa mise en scène. Ah, enfoiré. Coproducteur à la manque.
Alors, il est né, il est mort.
Tu t'appelles pas Renard, toi, hein?
Il est mort, 3 mars, je sais pas combien.
3 mars 1983, à Bruxelles.
Voilà, il est 23.
Et Jacques Martin.
Eh bien, Jacques Martin, comme il a dit dans l'interview, il est mort dans aucune des éditions.
Donc, plus de volume, mais peut-être un peu moins de précision. Eh ben oui, mais faute pardonnée.
Faute avouée, moitié pardonnée.
Complètement pardonnée même, hein, parce que c'était en plein maquettage et c'était un petit peu difficile, à mon avis, pour lui de revenir en arrière. Parce qu'on n'imagine pas quand même la masse de boulot que c'est. Pratiquement 1000 pages. Et en sens, moi je sais pourquoi je l'achète, hein. De toute façon, chaque fois qu'il paraît comme le BDM, c'est un usuel, c'est un outil pour le journaliste de bande dessinée, pour le libraire de bande dessinée. Quoique pour le libraire, dans le feu de l'action, c'est un peu difficile à consulter. Mais pour le fan de bande dessinée, eh ben c'est une découverte littéralement. C'est quelque chose on peut piocher dedans au hasard, découvrir des auteurs. Et découvrir des pans de l'histoire, c'est toujours très agréable de ce côté-là, je veux dire, hein, de consulter, prendre une page au hasard et,
oui, mais
et
quelqu'un,
de se la lire.
Par exemple, tu vas prendre le gars, enfin, hormis toute considération financière, gars, il travaille toute la journée sur son ordinateur, il tape des signes, il est journaliste, je sais pas, moi, il écrit.
Mais tu veux dire qu'il m'a fait venir chez lui pour voir si je pouvais réparer son Mac?
Peut-être. Non, ce que
je suis pas arrivé.
Aussi, peut-être. Non, mais c'est juste qu'aujourd'hui on écrit plus au stylo sur du papier. Donc, qui sait qui va aller. Est-ce que c'est pas plus frustrant aujourd'hui de délaisser son ordinateur où tu tapes tout avec la saisie de texte et tout pour aller chercher ton dico et le mettre sur tes genoux qui sont déjà occupés par ton chat?
Alors là, Thomas fait un coup vache parce que c'est vrai que j'écris mes chroniques jusqu'à 10h50, c'est-à-dire 1h10 avant le direct, avant de faire la programmation musicale et de foncer au studio après. Eh ben, en fait, quand je fais mes chroniques, c'est vrai que qu'il m'arrive d'aller sur la Wikipédia, d'aller sur les Wikipédias anglaises et tout ça, mais c'est vrai que c'est plus fourni pour les auteurs de comics, voire les auteurs de manga, que pour les auteurs franco-belges. Après, dans les détails, on est beaucoup plus sûr, justement, dans Larousse de la BD, pour trouver beaucoup plus d'éléments. Moi, personnellement, j'utilise vraiment beaucoup le dictionnaire de la bande dessinée, et pas uniquement pour mes chroniques. Des fois, c'est par curiosité, je reprends un bouquin, ou bien on a parlé dans la discussion, tel truc, Patrick me dit que c'est tel truc. Donc voilà, donc on en est bien content, et puis surtout que c'est une mise à jour qui est quand même bienvenue, et de ce côté-là, c'est toujours agréable. Après, il faut prévoir la place hein, quand même hein, dans ces étagères.
Le truc,
t'as vu où il est, hein, mais il est large, il est au-dessus de moi, il me demande peut-être de tomber sur ma gueule,
oui.
Les chats auront du mal à mon avis.
De toute façon, le plus dur c'est de l'acheter à la base, comme ça tu fais la place à la base et après tu le remplaces.
Exactement.
Donc après,
le veux l'ancienne édition, c'est ça?
Bon, c'est de couleur jaune, c'est vrai que... Non mais c'est vrai que, comme il y a l'épaisseur qui change, c'est vrai que tu vas devoir virer un ou deux bouquins franco-belges à côté pour faire plus de place.
Ouais, à peu près, ouais. Alors juste pour le clin d'œil, le jeu du dictionnaire, c'est une émission de la RTBF qui existe depuis environ 15 ans. Donc il existe une version française animée par William Lémergie, c'était sur France Inter. Je sais pas si elle existe encore, je crois qu'elle n'existe plus. Et c'est un jeu complètement loufoque où un panel d'invités donne chacun leur définition d'un mot et un seul est juste. Et parmi ces invités, il y a un certain Philippe Guéluc pour la RTBF, qui a fait les trucs les plus délirants. Ça a été compilé il y a environ une dizaine d'années par la RTBF pour Casterman sous le nom du Petit Roger Illustré. On a passé régulièrement des extraits parce que c'est très très bon. Et donc là, pour le fun, la définition de Eliou Katz par Philippe Guéluc dans le jeu du dictionnaire. C'est un extrait de la RTBF. Vraiment... Voilà, c'est pour le fun et pour marier le dictionnaire avec la bande dessinée.
Eliou Katz est l'auteur du seul Marabout Flash qui n'ait pas un succès commercial. Dieu sait si cette collection de mini-guides a reçu les faveurs du public dans les années 60. Je parle espagnol, je reçois mes amis, je cuisine chinois, je cultive mon jardin. Eliou Katz a signé le Marabout Flash numéro 164... vendu à 2 exemplaires. Je décore mon palais de Laeken. La première acheteuse du livre en 66, l'auteur s'en souvient encore, fut une dame avec une grande coiffure, la tête un peu inclinée sur le côté et un fort accent espagnol. Le deuxième exemplaire n'a été vendu qu'il y a quelques années à une dame blonde, la cinquantaine, avec un fort accent italien. Conclusion de l'auteur, Elio Katz, finalement, mon bouquin, je ne l'ai vendu qu'à des immigrés.
Et tout le reste du disque est comme ça, donc on peut la passer régulièrement.
Enfin, aigre-moi.
On l'a passé de temps à autre. Il est 13h et 3 minutes sur le supplément week-end. J'ai oublié de foutre top sonore, voilà, ça m'apprendra. Et pour le fun, puisqu'il aime bien justement tout ce qui est programmation musicale et tout ça, Mukta Bindi remixé par Mathieu Ballet. Voilà, c'est pour toi, Patrick. Bindi, remixé par Mathieu Ballet, extrait de leur premier album, il s'appelait Indian Sitar and World Jazz. C'est toujours le supplément week-end numéro 237 et du sport n'est pas là, donc du coup on déborde un peu. Non, c'est la durée normale.
Oui, voilà.
Voilà, ça tombe bien. On va parler de. On va enfin faire des sorties de bande dessinée, puisque là on était dans l'usuel de la bande dessinée, avec Thierry Gloris au scénario et Frédéric Charve au dessin. Ainsi va la vie. C'est sorti chez Drugstore. Comment dire ? Une bande de copains, quand on est en primaire, ben on se fait des combats de billes, vous voyez. Une bande de copains, quand on est au collège, ça sèche pour aller. Ça sèche les cours pour aller au cinéma. Une bande de copains quand on est au lycée, ça monte des booms et ça va en boîte. Une bande de copains quand ça va à l'université, c'est les galères entre petits boulots, les polycopes qu'on se refile, et puis les week-ends en voiture. Une bande de copains quand on a 30 ans, c'est les rêves, les projets, les plans de carrière qu'on avait imaginés, qu'on revoit. Les plans galères à se trouver en coloc dans un appartement trop étroit, le boulot de conseiller financier qui n'a rien à voir avec celui qu'on imaginait de banquier, les collègues emmerdeurs, les supérieurs hiérarchiques chiants et les clients insupportables. Et puis la vie qui s'enlise dans les petits boulots d'étudiants. Ainsi va la vie et l'autobiographie de Thierry Gloris. Une crise de la trentaine, l'ancrage de la génération adolescente, présente par cette fantasmagorie entre le chat de Cheshire et le chabus de Miyazaki. Les pièges des rêves d'enfants dans lesquels on se réfugie parce que finalement la vie d'adulte se montre horriblement décevante. On avait déjà parlé uniquement sur le plan affectif avec Moirf, la première partie du triptyque bipolaire de David Mourier. Alors pour fuir l'insupportable, il y a les soirées Casimir, les week-ends cosplay et les petits déj entre potes et pizza froide. Est-ce que la vie est faite pour dérailler, pour être décevant, pour être triste? En fait, certaines situations sont drôles. C'est juste qu'on n'en profite pas suffisamment sur le coup. Alors on est en plein dans le côté nouvel manga, hein, je veux dire, c'est-à-dire on est dans une quotidienneté, on est où il y a vraiment le. Il n'y a vraiment aucune, je vais dire, aucun artifice. C'est une histoire qui pourrait être la vôtre, qui a été celle, en fait, du scénariste, littéralement. La vie du scénariste. Alors, c'est assez difficile, finalement, d'en parler parce que, plus exactement, de le chroniquer. Tout simplement parce que la génération qui décrit, c'est aussi la mienne, c'est aussi celle de Thomas. Donc, à partir de là, ben, les plans galères, les plans difficiles. Et tout ça, bah on est encore en plein dedans. La crise de l'adolescence, on est dedans. Sinon, on ne parlerait pas, peut-être pas de BD. Je sais pas. On va savoir. En tout cas, c'est vraiment ce qui est raconté. On est plus ou moins partie prenante dans cette histoire. On le vit, on le revit. Donc, on estime qu'on est vraiment dedans. Et le problème, c'est qu'au moment où je l'ai lu, bah, peut-être que je manquais d'évasion. J'avais envie de changer. Extraordinaire, un truc comme ça, je sais pas, peut-être en tout cas, alors que c'est bien écrit, c'est plutôt très bien dessiné, et ben je me suis mal retrouvé dedans, j'ai pas vraiment pris plaisir de lecture, je sais pas, ça à mon avis c'est que j'étais peut-être pas d'humeur à regarder moi-même. Ainsi va la vie après tout. Thierry Gloris au scénario, Frédéric Charve au dessin, et c'est édité chez Drugstore. Thomas, lui, il feuillette rapidement pour se faire une idée.
Ouais, si, je pense que ça vaut le coup. Je vais tester, moi, tiens.
Tout quel graphisme. Hein.
Ouais,
et ça, pas mal. C'est... Et très très bon.
Ouais, c'est nickel.
Et je vous emmène par l'océan. Un océan loin, très loin, très très loin. Warren Ellis au scénario, Chris Spouse au dessin. C'est dans la collection Wildstorm Universe chez Panini Comics. Dans l'océan, et ben on suit Nathan Kane, un inspecteur en désarmement de l'ONU. C'est un agent un peu spécial entre diplomate et enquêteur international. Une vocation qui lui est pas vraiment venue sur le tard, mais suite à l'assassinat de son père en plein New York, malgré l'interdiction des armes à feu. Il a deux passions. Le premier pas de l'homme dans l'espace, c'est les livres en papier. Car dans un siècle, si l'homme s'installe dans l'espace, tous les éléments de la culture passent essentiellement par informatique. Nathan a été envoyé dans le plus grand secret sur Port-Froid, une station d'observation et d'exploration en orbite basse d'Europe, au large de l'immense Jupiter. Je précise orbe, je parle d'une lune, je parle pas du continent. Mais visiblement, sa présence ne sera pas la bienvenue, car en transit sur la station minière de l'astéroïde Deimos, il se fera agresser. Inspecteur en désarmement ne veut pas forcément dire non-violent. Qu'est-ce qui attire des tueurs à gages aussi loin? La réponse, Kane ne l'aura pas sur place, pas forcément, mais elle aura de quoi l'estomaquer. Sur la banquise éternelle d'Europe, dans les profondeurs de son immense océan, les sondes y ont trouvé de gigantesques structures construites, ce qui ressemble à d'immenses armes et des sarcophages, des tombes d'une espèce trop humanoïde pour qu'il n'y ait aucun rapport. Et à quelques encablures de Port-Froid est installé le satellite de la Doors Corporation, multinationale de l'informatique qui déshumanise ses employés. Et aussi les systèmes d'exploitation. Bien évidemment, pour cette entreprise, au-dessus des États, elles sont les mêmes achetées quelques-uns, une technologie militaire extraterrestre va forcément se monnayer lourdement. Un scénario de Warren Ellis qui soit soft, oui, c'est possible. L'auteur raconte que le premier pas sur la Lune est son premier souvenir cohérent, événement qui a eu lieu alors que Warren Ellis n'avait que 17 mois. D'où l'envie d'une science-fiction art-science ambitieuse sur le thème de la conquête spatiale et la passion de Nathan Kane sur le programme Apollo. On note dans Océan quelques similitudes avec le Universal War One de Denis Bajram sur les multinationales qui veulent gouverner l'espèce humaine. Mais c'est le film 2001, ou sa réponse soviétique Solaris, peut-être, qui revient en mémoire. Sur le mystère d'Europe, la lune de Jupiter, qui est le plus grand océan d'eau liquide de notre système solaire, et donc un probable réservoir de vie organique, pourquoi pas, mais aussi les exploits de l'exploration spatiale qui joue avec les limites de l'humanité, à la fois technologique mais aussi philosophique. Si le scénario est bien moins orienté action que Global Frequency, cette histoire complète ne trouvera de meilleure place que dans le rayonnage de votre bibliothèque. Pour information, aujourd'hui, on fête les 20 ans du lancement d'Hubble. Thomas, tu peux regarder rapidement.
Oui, j'ai regardé.
Tu l'as pas vu.
De quoi, la bande dessinée?
Ouais.
Si, si, j'ai feuilleté tout à l'heure, ça, le dessin béton. Après, oui, c'est. Ouais, je pense que c'est l'histoire qui fait tout aussi, je suppose. Donc on va.
On est surpris parce que c'est clair que, point de vue action, ça reste relativement soft.
Oui, hein. Voilà, il y a beaucoup de. Ouais. Mais après, ouais, au niveau du graphisme, c'est nickel, ouais. Y a rien à dire.
Merci pour ce commentaire hautement autorisé. Warren Ellis au scénario, Chris Pouce au dessin, Océan. C'est dans la collection Will Storm Universe, traduit chez Panini Comics. Allez, petite interruption musicale. Jackknife Lee featuring The Cat in the Hat here. Kitty Kitty, c'était extrait de son album Muy Rico, qui est ce muy ancien.
It's showtime, ladies and gentlemen. Et non, ce n'est pas Guy Job et son orchestre, mais Jackknife Lee featuring The Cat in the Hat here, Kitty Kitty, extrait de l'album Muy Rico.
Sur Radio FMR, vous écoutez le supplément week-end cinéma.
Comment ça, j'en fais trop?
Ah non, non. Non, j'ai pas dit ça, bon. Allez, aujourd'hui, on parle de Zone Verte avec le film Green Zone de Paul Greengrass avec Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson et Jason Isaacs.
Grâce.
Oui, oui, il s'appelle Greengrass aussi, le réalisateur. Oui, je suis Paul Herbe Verte et je fais des films. Alors, en 2003, pendant l'occupation américaine à Bagdad, des unités spéciales sont chargées de détecter des armes de destruction massive entreposées dans des lieux secrets. On leur donne des briefs avant chaque mission, ils vont sur place, ils trouvent rien, ils reviennent pour dire qu'ils ont fait chou blanc, on leur redonne un brief, ils vont ailleurs, ils font chou blanc, ils reviennent. Mais l'adjudant-chef Roy Miller commence à, franchement à péter un câble et à douter de la fiabilité des informations qu'on lui transmet. Aidé par un responsable de la CIA sur place, il mène son enquête et doit mettre la main sur le général irakien Al-Rawi, qui est la clé de l'énigme. Mais une autre unité lui met des bâtons dans les roues. Tiens, tiens. Alors, la zone verte, c'est la zone où, grosso modo, les politiques américains ont investi le palais de Saddam pour foutre un pantin à la tête du gouvernement irakien pour contenter les...
C'est la zone sécurisée, c'est le quartier des ambassades et des ministères.
Voilà, et sauf que le palais de Saddam a été transformé en espèce de... Bah, tout est organisé autour de la piscine et puis il y a plein de bombes siliconées qui se dorent la pilule.
Bref, on vous laisse imaginer comment bosse le quartier général.
Voilà. Alors le film s'ouvre sur l'arrivée en Irak du fameux pantin que les ricains veulent placer à la tête du pays. Donc voilà, bon, le décor est planté, on sent que c'est pas juste le film d'action du moment, mais avec un sous-texte quand même un peu plus élaboré. Alors derrière c'est l'équipe de Bourne, l'équipe des Jason Bourne, les du 2 et du 3, donc toujours Matt Damon et Paul Greengrass. Donc comme je vous ai déjà chroniqué les Bourne, vous savez tout le bien que je pense de cette collaboration. Alors on est toujours dans du Bourne, hein, c'est-à-dire, enfin au niveau de la réalisation, c'est-à-dire que la caméra elle bouge dans tous les sens, ça pète de partout, il n'y a pas une scène où les personnages sont pas en train de bouger, de parler frénétiquement, de marcher vite, de courir. Il y a même beaucoup de scènes nocturnes où c'est vraiment filmé avec une caméra qui donne un rendu mais vraiment dégueulasse. C'est du grain à n'en plus finir, mais c'est pas si gênant que ça, mais il se peut qu'il y ait des gens qui soient rebutés par ce rendu là. Pour nous qui dès 2003 pendant la déclaration de guerre de W, s'il était clair que les armes de destruction massive n'existaient pas. Alors ce film sert peut-être à montrer aux Américains qu'ils avaient fait fausse route et qu'on peut enfin parler du fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. On voit dans le film justement le parcours de Miller, donc de Matt Damon, pour essayer de décrypter le vrai du faux, puisqu'en fait c'est un des chefs des politiques américains qui a été envoyé par le gouvernement sur place, qui a fait un rapport au Pentagone comme quoi effectivement il avait rencontré en secret en Jordanie un général secret appartenant à l'armée irakienne qui lui aurait confirmé qu'il y avait des armes de destruction massive. On apprend dans le film que effectivement la clé l'énigme, ben, c'est le fameux général qui en fait lui a dit qu'il n'y avait pas du tout d'armes. Donc le bobard est venu du responsable des opérations sur place, mais alors le propos du film c'est que le gouvernement n'a pas cru au bobard et qu'il a pas vérifié, c'est juste qu'il avait besoin de ces bobards là pour lancer la guerre. Donc c'est le propos du film. Ensuite, ce qui est bien aussi dans le film, c'est qu'il n'y a pas une seule allusion au pétrole. C'est juste sous-latent, il y a aucune allusion, mais même lointaine. C'est juste que le film se clôt à la fin sur un plan aérien où il y a, j'allais dire Bourne, mais non, Miller, qui avec son escouade repart en mission avec les jeeps et les véhicules, et en fond, il se dirige vers les raffineries. Voilà, on sait que c'est le nerf de la guerre de toute façon. Et à la fin, le film se clôt sur justement le fait que Bagdad se soit transformé en brasier absolument incontrôlable par les Américains, puisque les envoyés du gouvernement étaient persuadés de à partir du moment où ils mettraient un pantin à la tête du gouvernement, ce serait nickel. Sauf que le parti basse, les sunnites, etc.
Parti basse, c'était le parti au pouvoir, le parti de Saddam Hussein. Hein.
Oui, oui. Voilà. Donc les bassistes et enfin tous les autres qui refusent.
C'est pas les joueurs de basse, attention.
Voilà. Et donc les autres refusent que ce pantin soit à la tête. Donc le film se clôt sur l'échec des Américains. Une phrase du général qui balance vous pensez vraiment que à partir du moment où vous avez tenu Bagdad, vous avez gagné la guerre, mais n'importe quoi. et le film se clôt sur des explosions en chaîne et tu vois qu'en fait c'est un gros bordel et il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans le film et c'est rendu avec un certain souci d'une certaine finesse, c'est pas noir et blanc. D'ailleurs le film se clôt sur un semi-échec, on va dire. Donc voilà.
Tiens, ça me rappelle le film sur W.
Oui, l'improbable président, et ça fait aussi penser à la chute du Faucon Noir aussi sur l'échec de l'armée américaine en Somalie. Donc voilà, on voit que le film montre que les Américains ont fait le mauvais choix au lieu de suivre le personnage de la CIA incarné par Brendan Gleeson qui suggérait de s'appuyer sur l'armée irakienne que l'armée américaine avait battue. Mais pour l'armée américaine, c'était un signe d'échec de remettre l'armée irakienne dans les négociations parce que de toute façon, on les a battus, ils ont le droit de rien, donc qu'ils aillent se faire foutre. Et justement, le film montre que les dirigeants de l'armée irakienne n'attendaient que ce geste des Américains pour pouvoir essayer de jouer leur jeu et de faire que le film que le pays ne se transforme pas en gigantesque brasier, la chose qu'il finit par devenir à la fin du film. Voilà, comme je disais, peut-être un petit peu un enfonçage de porte ouverte parce que maintenant pour un point de vue américain, je ne sais pas, mais pour nous on n'apprend rien. Après, le film reste un thriller sérieusement efficace avec une réalisation nickel. Le méchant il y a beaucoup de méchants dans le film. Il y a Greg Kinnear qui est nickel, qui incarne le politique Poundstone, qui est juste Keblo pour essayer de tirer un maximum de profit du pays, et il s'en fout qu'il soit réduit à feu et à cendres. Jason Isaacs qui incarne l'officier qui est à la lutte contre Matt Damon pour essayer de mettre la main sur ce fameux général. Donc il est incarné par le gars qui joue Malfoy dans Harry Potter, le père Malfoy. Donc là il est méconnaissable, il est brun, il a des moustaches et tout. J'ai cru à un moment donné que c'était David Toulis qui avait aussi joué dans Harry Potter. Non, il se confond un petit peu. Green Zone, ça reste pour moi un excellent thriller militaire. Toi, Xavier, tu me disais que tu avais entendu des mauvais échos sur le net.
Oui, plus exactement de vétérans et qui ont été justement dans les unités qui sont décrites, qui disent que apparemment, il s'était donné franchement beaucoup le beau rôle le rédacteur du roman originel,
oui.
Qu'en fait, justement de ce côté-là, il y avait loin de l'innocence aussi pour sa propre équipe, loin de là. Bref, ça a pas l'air très positif et je sais qu'il y a il y en a qui râlent et qui disent on va financer notre propre film et on va le tourner par nous-mêmes. Évidemment, ce sera pas du tout avec les mêmes moyens.
Oui.
On attend de voir. Je crois qu'il y a eu un sujet qui était passé sur Arte là-dessus.
D'accord.
Donc voilà.
Donc Green Zone de Paul Greengrass, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson et Jason Isaacs.
Vous écoutez Radio Éphémère, il est 13h30. On me fait signe en régie que j'ai été très mal poli. Et que à 12h30, j'ai pas interrompu l'interview pour passer la pub. Donc, puisque tout à l'heure on parlait du festival du jeu qui continuera sur à partir de 15h sur cette antenne sur les 89.1 MHz pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a aussi un autre événement dont la radio est partenaire.
L'association Point de Fuite présente Fantasmagorie, une exposition d'art contemporain, des concerts, des conférences, des performances, du théâtre, des lectures, des médiations culturelles. Rendez-vous à la Maison des Vins et du Tourisme, Château Capdeville à Fronton, du 11 avril au 2 mai 2010. Au programme, le samedi 1er mai, pique-nique électronique à la campagne et concert live de Pimp. Le dimanche 2 mai, finissage de l'exposition, présentation des travaux des enfants et concert de Jiang Nan, musique chinoise. Fantasmagorie, du 11 avril au 2 mai 2010, à Fronton. Tous les renseignements sur pointdefuite.over-blog.com ou sur le site de Radio FMR, www.radio-fmr.net, en partenariat avec Radio FMR.
Faut vraiment qu'ils apprennent à faire un son correct, hein, c'est insupportable.
Éphémère.
Déjà?
Bah oui,
c'est vite passé.
Oui, les 13h32, on a très bien tenu sans du sport finalement. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route de l'émission et que peut-être qu'il y en a qui ont trouvé l'interview passionnante et qu'ils ont manqué le début, mais justement. Thomas?
On va faire un petit résumé. C'est vrai que comme du sport n'est pas là, on n'a pas les téléfilms à la con avec les Mega Shark versus Giant Octopus. Mais
attends, on ne juge pas.
Bah si, il a intitulé sa chronique les téléfilms à la con. Voilà. Alors, on a eu aujourd'hui du jeu mais pas de pain, une génération gamer justement, de l'eau dans l'espace, du gros Dico qui pèse, une interview du papa des Dico, une définition bidon, les habituels plantages et un jeu du chat et la souris avec l'armement de Saddam.
Mon Dieu ! Nom d'une définition, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et des précédentes. Retrouvez nos chroniques écrites, par exemple Le Roi Invisible, Zach et Willy, Tachi Goichi, Triptyque Bipolaire Morph, Risto Rente Paradiso et GND, et plein d'autres chroniques. Posez vos questions, Patrick Groumer, pourquoi pas. Jouez à des quiz stupides, laissez vos commentaires. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web suppléementweekend.fr suppléementweekend.fr. La suite du programme, juste pour vous signaler que la semaine prochaine, nous serons à nouveau ici. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net à partir de 15h. FMR et Booster sont en direct du Festival du Jeu. Nous, la semaine prochaine, on est ici, il n'y a pas de problème. Mais la semaine suivante, le 8 mai, on sera au Festival de la Bande Dessinée de Toulouse, Place du Capitole, en direct, en public, avec des auteurs. Venez nous emmerder, c'est l'occasion rêvée. Donc, ce sera du 7 au 9 mai et plein d'autres choses. Ceci dit, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Amusez-vous bien, même heure, même fréquence.
Jouez bien.
Et voilà. Et pas du sport, du coup, c'est de la prog musicale. Ciao. Jusqu'à 15h.
Ciao.